au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Parce que j'ai mis quatre boules dans mon sapin en fin de semaine.
Seulement quatre?
Ben oui, je suis comme ça, moi.
Ah, je te dis, quand on est Grinch!
Coudonc, vous, là,
vous,
aujourd'hui.
Là, vous, là, aujourd'hui, vous êtes tannant. Ben oui, on est de bonne humeur. Ben oui, il y a de la neige aujourd'hui, puis c'est frais, hein, c'est frisquet. En fait, je peux vous dire que tout le sud du Québec, le centre du Québec, l'Abitibi, on parle de passages nuageux, peut-être des risques de neige, notamment dans la capitale nationale, l'Est du Québec. Moins 9 dans le nord, plus 3 dans le sud. En fait, moins 3 dans le sud. Et à Gaspé, imaginez-vous, plus 2 aujourd'hui. Autour de plus 4 au Nouveau-Brunswick, plus 8 en Nouvelle-Écosse. Et donc, ça va être probablement de la pluie en Nouvelle-Écosse. Hein, et plus 6 à l'Île-du-Prince-Édouard et plus 9 à Terre-Neuve. Pluie et neige en Ontario, ça va de moins 1 à moins 1, moins 7 à moins 1. On se mêle avec les moyens. Alternance soleil et nuages dans les prairies, moins 11 à moins 2. Il y a de la neige à Edmonton à 0. Des averses sur la côte ouest, plus 7. À l'intérieur de la Colombie-Britannique, avertissement de tempête hivernale. Hein? Et c'est pas facile. Ben oui, aujourd'hui, donc, c'est le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. On va en parler à l'émission pas mal au cours d'une entrevue qu'on a sur le sujet. Et on va aussi parler de l'adoption. Hein, on va se souvient qu'il y a eu des adoptions entre 1900 et 1972, 300 000 enfants qui furent donnés en adoption, qui n'ont jamais pu savoir qui était. Ben, certains ont fini par le trouver, mais savoir qui étaient leurs parents, parce que c'était fait à l'époque dans la honte, dans les crèches, parce qu'on parlait parfois de mères célibataires, etc. Une autre époque, j'espère que ça ne reviendra pas. Alors, on reçoit Renée Tanguay, qui a écrit un livre « Retrouvailles sous le sceau du secret ». Elle se base aussi sur son expérience, parce qu'elle a travaillé avec Claire Lamarche et aussi avec l'organisme Retrouvailles. Donc, un roman qui est très touchant. On va en parler. Puis, on va parler aussi, ben oui, on approche de Noël. On va parler du Messie. Alléluia. Oui, alors, le chef de l'Orchestre classique de Montréal, qui va être ici avec nous, André Ferrer. Ferrer qui va donc parler de cette interprétation qui sera présentée le 11 décembre. Mais avant tout ça, nos chroniqueurs. Je vais faire encore l'inverse que je fais habituellement. Louis de Bernis, on va aller dans l'inusité aujourd'hui.
Oui, l'insolite. Comme d'habitude. C'était vendredi fou, vendredi passé. Ça a été un peu trop fou pour une compagnie en Italie dont je vais vous parler, qui est dans le trouble en ce lundi matin. Ils se sont rendus compte qu'ils ont vendu beaucoup trop d'iPad à des prix beaucoup trop, trop bas. On parle de 15 euros. Peut-être avez-vous pu profiter de l'occasion.
J'ai manqué ça.
Je vous parlerai aussi du plus vieux chauffeur de bus du monde. Ça, c'était aux États-Unis. C'est une histoire amusante et touchante. Il a 95 ans, le monsieur.
Il y avait une blague, je pense qu'on disait, le plus vieux russe, il toffe Miachev, lui, il chauffe Miachev.
C'est un peu ça.
Bon, et Daniel, nous, on est dans le temps des fêtes, toi puis moi, on aime ça, nous, les fêtes. Hein?
Ben oui, c'est agréable aussi. Hein? Des fois, moi, je trouve ça agréable. Puis là, vous avez mentionné le film Grinch. Mm-hmm. Le Grinch, c'est un film qui est paru en 2018. Vous allez me dire pourquoi je parle de ça. Puis aussi, vous rappelez-vous du fameux film Maman, j'ai raté l'avion.
Ah, bon, c'est ça. C'était tellement drôle, oui.
C'était drôle, ce film-là. Puis c'est en 1992. Alors, ces deux productions-là dont je vous parle en ce moment-là sont du temps des fêtes. Hein. C'est ceux qui ont rapporté le plus au box-office.
Ah, ouais.
Alors, vous devinez que je vous entretiens ce matin de films de Noël.
Bien, il n'y a pas de trouble. On est le 1er décembre. C'est le temps de parler de Noël. On a le droit. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est le 1er décembre. On va en musique de Noël. On commence avec ça aujourd'hui.
Show.
Oui, on vient d'entendre « Mais c'est tchèque », c'est la version en langue inoue de « Adeste Fideles », interprétée par Nelly, c'est la belle-fille de Florent Volant. Et c'est, ça fait partie donc d'un album qui s'appelle « Album de Noël pour la Fondation CHU Sainte-Justine, femme de tête, femme de cœur ». Ah, c'était très beau. C'est le temps d'aller aux actualités. Dans la Presse Plus ce matin, un dossier « Québec est sous le feu des critiques après avoir discrètement assoupli le suivi des criminels au risque de se réveiller avec un drame ». Pour faire face à une surcharge de travail sans augmenter les effectifs, le ministère de la Sécurité publique a réduit les tâches des agents de probation. Parmi les mesures, les criminels à risque élevé de récidive, appelés cas élevés, verront la fréquence de leurs rencontres de suivi passer de bimensuel à mensuel. Aussi, les analyses de risque ne sont désormais obligatoires que pour les peines de plus de 9 mois. Plus inquiétant encore, Québec a allégé le suivi des criminels portant un bracelet anti-rapprochement visant à protéger les victimes de violences conjugales. Les agents n'ont plus l'obligation de consulter les victimes pour s'assurer du respect des conditions, sauf en cas de problème. Plusieurs agents et syndicats dénoncent les mesures qui, selon eux, donnent l'impression de tourner les coins ronds, augmentant les risques pour les personnes vulnérables. Et puis, deuxième partie de ce dossier dans la Presse Plus ce matin, la Sûreté du Québec a revu son plan de réduction budgétaire, évitant les coupes massives initialement envisagées. L'organisation devra finalement réduire ses dépenses d'environ 60 millions de dollars sur 2 ans, soit 2 fois moins que le plan de 120 millions de dollars sur 1 an, qui avait suscité l'ire du ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière. C'est quand même 120 millions, mais pas sur 2 ans et non pas sur 1 an. Le nouveau plan de réduction des dépenses qui sera présenté aujourd'hui prévoit la suppression de plus de 250 postes. Cependant, les coupes cibleront surtout le personnel administratif avec seulement une trentaine de policiers touchés, et cela par attrition. Selon le syndicat des policiers, le message a été bien reçu car aucun poste de police ne sera fermé en région et les services de première ligne ne seront pas touchés. Le ministre Lafrenière a souligné qu'il souhaitait avant tout une structure qui soit moins lourde. Ces compressions surviennent alors que la SQ est déjà soumise à un gel de recrutement depuis novembre 2024. Toujours dans la Presse Plus, en cette journée mondiale du sida, des chercheurs de l'Université de Montréal dévoilent une nouvelle piste pour éradiquer le VIH. Le virologue Andrés Finzi, auteur principal d'une étude publiée dans la revue Nature Communications, explique qu'il a trouvé comment enlever au virus sa cape d'invisibilité. Cette cape est le mécanisme que le VIH utilise pour se cacher du système immunitaire humain. Son équipe a confirmé qu'une molécule puissante est très efficace pour éliminer les cellules infectées où le virus se cache, ce modèle selon un modèle animal. Si les médicaments actuels permettent aux patients de contrôler le virus et d'avoir une vie normale, ils ne peuvent pas l'éradiquer. Cette découverte est donc un pas majeur vers la guérison complète des patients. Toutefois, même si les prochains essais cliniques avec des humains sont concluants, un médicament basé sur cette molécule ne serait pas disponible avant environ 5 ans. Toujours en cette journée mondiale du sida, des signaux contrastés émergent selon Radio-Canada.ca. À Toronto, après 4 décennies de service, l'organisation ACT, AIDS Committee of Toronto, fermera ses portes l'an prochain, faute de financement et de demandes. L'organisme juge que les besoins des personnes séropositives ont évolué, notamment grâce au progrès des traitements et de la PrEP, la médication préventive. Mais attention, l'élimination de l'épidémie d'ici 2030, objectif fixé par l'ONU, auquel le Canada a signé, c'est toujours de plus en plus difficile à atteindre. Le Canada serait même en voie de rater certaines des cibles de, qu'on a dit, les 95, et j'explique, 95 % des personnes ayant le VIH connaissent leur statut, 95 % de ces personnes sont sous trithérapie, donc la médication qui contrôle le VIH, et 95 de ces dernières sont indétectables, donc intransmissibles, donc on arrête la transmission. Alors présentement, le Canada se situe autour de 89, 85, 95, donc loin des objectifs. La situation est d'autant plus préoccupante que sur la scène mondiale, le financement de la lutte contre le VIH a été décimé, notamment en raison du retrait de certaines aides internationales. Alors, on peut donc cibler ou pointer du doigt l'administration Trump aux États-Unis, qui a décrété aujourd'hui que le pays ne soulignera pas la Journée mondiale du sida. L'administration qui a réduit de façon draconienne son aide pour la recherche et le traitement du VIH, non seulement sur son territoire, mais dans le monde. Selon l'ONU-SIDA, la riposte mondiale subit actuellement son revers le plus important depuis des décennies, et on prévoit même qu'il pourrait y avoir d'ici 4 ans quelque chose comme 14 millions de cas supplémentaires au nombre actuel, en raison de ces coupes, évidemment. Et puis en éducation, Le Devoir, donc, qui nous parle d'une situation étonnante qui est observée malgré la pénurie de personnel de plusieurs écoles évitent de faire appel aux enseignants à la retraite. Le motif principal serait qu'ils coûtent trop cher. Des retraités expérimentés, pourtant sollicités par Québec pour prêter main forte, constatant qu'on leur préfère des enseignants ou des remplaçants non qualifiés ou peu expérimentés. L'un d'eux déplore qu'il faut que les écoles soient vraiment mal prises pour qu'elles fassent appel à ces gens-là, c'est donc enseignants retraités ou enseignantes retraitées. Les autres professionnels et les syndicats s'inquiètent de cette situation qui pourrait miner la qualité de l'enseignement. Cette approche visant les économies à court terme pourrait se faire donc au détriment des élèves.
Tu es tout petit dans mes bras, de la lumière plein les yeux. Laisse-moi décrire ce que tu vois, dévoiler ce qui rend heureux. Ce soir sera mémorable, on s'est tous mis en beauté. Il y a un festin sur la table et des cadeaux par milliers. C'est en chantant que ta sœur a décoré le sapin, tout est bien en bas. À la hauteur de ses mains, elle accrochait sans hésiter des souvenirs trouvés dans l'arbre qui penche maintenant par en avant. Le déséquilibre est parfait. C'est ton premier Noël. Et puisque tu n'as pas sommeil, tu croiseras le Père Noël. C'est ton sans aucune gêne. Quand les cadeaux sont déballés et qu'on a profité de cette soirée qui arrive une fois par année, on se promet à l'an prochain telle une tradition, malgré le temps toujours garder nos cœurs d'enfants, parce que ça fait de belles chansons. C'est ton tout premier Noël. Et puisque tu n'as pas sommeil, tu croiseras le Père. Tu n'as pas sommeil.
Annie Villeneuve et sa chanson « Tout premier Noël ».
Eh bien oui, on reste dans le temps des fêtes. Ça fait, bon, je vous promets, c'est les deux seuls aujourd'hui, mais j'en mettrai plus la semaine prochaine puis la semaine d'après, parce qu'on arrive à Noël. Puis bon, ça fait du bien d'avoir du plaisir, puis de se réjouir. Puis ben oui, c'est le fun Noël. C'est le fun, hein, Daniel?
Ben oui, une fois par année. C'est, ouais, c'est
en entend que c'est juste une fois par année, on va dire...
Ce serait plusieurs fois, on dirait « wow », ça serait juste la carte de crédit. Mais il y a aussi une autre façon d'avoir du plaisir. On entend des chansons, évidemment, oui. Mais il y a aussi voir des films de Noël. Hein?
Oui.
Hein? Puis souvent, ces films-là, ce que je lisais, c'est souvent mal joués, ils sont très prévisibles. Et puis, c'est des histoires très, très prévisibles dans le sens que un genre de type de scénario qu'on retrouve, c'est par exemple une jeune femme qui vit à New York, qui connaît une carrière de journaliste couronnée de succès. Et puis tout à coup, ben, c'est toujours un classique, il y a le décès de quelqu'un, d'un être cher qui habite au loin, aux États-Unis, à la campagne, un choc de culture pour cette jeune femme-là qui vit à New York, vous voyez un peu le genre,
ouais.
Elle s'adapte à toutes sortes de situations cocasses, puis à travers tout ça arrive un beau jeune homme, imaginez, et puis là, ben, il faut une belle histoire d'amour dans ce genre de film-là, hein?
Mm-hmm.
Alors, ben, finalement, évidemment, dans le film « Fin heureuse », elle dit adieu, adieu au fiancé qui reste à New York, qu'elle quitte, et elle tombe follement amoureuse de cet jeune homme-là qu'elle vient de rencontrer, puis finalement, décide de vivre à côté de lui. Hey, écoutez, bon, c'est des happy ends, et puis j'apprends dans le magazine Véro, j'en ai pris de décembre 2024, il y a 200 films de Noël qui sont produits chaque année. Et il y en a même qui tombent dans les programmations de certaines chaînes en plein mois de juillet.
Mmh.
Et autant vous dire, dans l'article, Rose-Marie Charette, qui est psychologue, elle dit que c'est plutôt impressionnant. Elle n'est pas surprise que les gens soient aussi nombreux à se rallier aux productions du genre, parce qu'on regarde le contexte mondial qui est assombri par des guerres ou des situations, changements climatiques, des années pandémiques, des crises politiques, etc. Ben, c'est souvent lourd à porter. Puis on s'en rend pas compte, mais ça nous affecte. Ça a beau être loin, c'est tous ces événements-là, ou très près de nous, mais ça nous affecte. Et puis, si on consacre justement 2 heures de notre temps à regarder un film qui passe dans l'intimité à deux ou en famille, ben ça nous fait du bien. On n'a pas de stress, on n'est pas dans la misère. Puis, ça nous permet de prendre une pause de nos tensions, justement. C'est ce qu'elle relate, elle. Donc, mais il y a aussi dans l'article, on y mentionne la signature Hallmark qu'on associe aux cartes de vœux. Il y a une chaîne aussi de films Hallmark qui est spécialisée dans les téléfilms de Noël et cette chaîne-là produit ces fameux films. Elle est issue de la fusion de deux chaînes religieuses qui a été lancée dans les années 80. À l'époque, leur programmation était dominée par des émissions à caractère religieux et par la suite, cette programmation-là a évolué vers des contenus à valeur familiale et au fil des ans, puis il y a eu des changements de nom en cours de route. Alors, Hallmark Channel, qui a vu le jour en 2001, se spécialise dans les comédies romantiques. Mais elle s'est surtout fait connaître par son répertoire de films, c'est toujours en croissance, de films de Noël. Hallmark annonçait justement à l'été 2023, parce que l'article est de 2024, Hallmark annonçait la sortie de 40 nouveaux films de Noël sur ses différentes plateformes. Puis maintenant, ben, le Hallmark Plus, et donc on peut voir des films en continu de ces films de Noël. Donc, c'est pour vous dire que c'est un phénomène.
40 nouveaux films, ça veut dire 80 heures de films à regarder.
C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose.
Ils ne doivent pas tous être bons quand même.
Non, ben c'est ça, parce qu'on dit que souvent, c'est vite fait, parce que 40 films, il faut en produire, là, c'est pas rien.
Puis on s'entend, hein? Hallmark, c'est de la production états-unienne, bon marché, puis...
Puis ils trouvent, là, ils trouvent tout, là, je veux dire, les gens, le public est là. Ben, voyez-vous, on parle de 40 films en 2024, c'est comparativement à 4 en 2002.
Oh, quand même!
Ouais. C'est donc, c'est quelque chose. La formule est répétitive, et puis, ils ont des airs très familiers, mais l'audience est toujours au rendez-vous. C'est toujours la même genre d'histoire, comme je viens de vous relater. Le public est prêt aussi à pardonner les imperfections, comme, par exemple, les parterres recouverts de neige artificielle, et les plantations de faux sapins, en autant que ça puisse apporter du réconfort. réconfort. C'est juste drôle parce que c'est vrai que c'est ordinaire quand on voit ça, hein, un film de Noël à en Californie. Et c'est dans l'article, on mentionne sentimentalité à la pelletée. Et il y a Isabelle Dréhan, qui est une scénariste, directrice et productrice, qui est originaire de Montréal, mais qui travaille à Los Angeles. Comme je vous parlais, il y a beaucoup de films. Les films sont produits très rapidement, donc il faut qu'ils se basent sur des méthodes pour faire des films de Noël. Et puis, il y a des formules, déjà des recettes toutes faites, là, dans un format très précis. Et elle mentionne aussi, ben, il y a l'amoureux potentiel. Puis elle mentionne aussi que dans l'élaboration de scénario. Il faut faire ça en très peu de temps. Puis pour vous dire à quel point, on sait même à quelle page la rencontre des amoureux va avoir lieu.
Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, Hallmark, c'est devenu le harlequin de Noël, quoi.
Ben, je dirais, ouais, c'est bien comme image, oui, le harlequin.
Les romans harlequins, je devrais dire, là, fameux romans où c'est une formule.
Oui, ben c'est ça. Fait qu'il faut que ça roule énormément. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est une formule rapide. Ce qu'elle mentionne, elle dit, ce que j'aime, Isabelle Dréhan, ce que j'aime des films de Noël, c'est vraiment l'aspect conte de fées. Il faut beaucoup qu'il y ait des émotions dans ces films-là. Et c'est le cas de dire. Comme le rappelle aussi Rosemarie Charest, c'est que Noël est porteur d'une grande intensité émotionnelle, hein, et c'est ce que les films cherchent à reproduire. C'est beaucoup axé sur l'émotion. En général, ça part de quelqu'un qui est seul et qui trouve un partenaire. Ça part d'une famille qui est divisée et qui se réunit suite à des conflits qui durent depuis longtemps et qui, là, vont trouver des solutions pour avoir une fin heureuse, le happy end. Et c'est aussi la prévisibilité, la nécessité d'une fin heureuse. On a besoin d'une fin heureuse. On ne peut pas s'en passer. C'est ce que mentionne Rosemarie Charest. On aime voir venir les fins. On aime ça voir venir et les fins aussi, voir venir une belle fin heureuse. Ça nous permet de nous détendre. Et elle mentionne qu'entre regarder un film de Noël et lire un roman, elle estime que le phénomène est le même. C'est celui de s'identifier et de vivre une histoire qui n'est pas la nôtre, comme si elle était la nôtre, hein, pour se faire du bien. On mentionne que c'est un plaisir coupable. Ah, là, c'est une autre histoire. Dans l'industrie du film de Noël, les femmes de 25 à 54 ans endossent le rôle du public cible. Mais les hommes seraient plus nombreux qu'on pense à les regarder. C'est ce qu'affirme Isabelle Dréhan, qui est scénariste. Et elle signale qu'une tendance se dessine tranquillement avec des hommes comme personnages principaux, justement, dans ces films-là, et qui révèle que lorsque les gens apprennent qu'elle scénarise des films que Louise Dréhan... Isabelle Dréhan scénarise des films de Noël. Ben, les hommes sont plus nombreux à lui avouer s'adonner à ce plaisir coupable quand elle rencontre ces gens-là. La notion de plaisir coupable, c'est une étiquette qui colle au film de Noël et Rosemarie Charest ose remettre en question. En quoi est-on coupable de faire des choses simples qui n'exigent ni notre engagement, ni notre investissement intellectuel? Elle est, par contre, le fait elle est contre le fait de se culpabiliser par rapport à ça. Elle pense qu'il en faut des moments où notre intelligence ne fonctionne pas à plein régime.
Ah, j'en ai plein des moments comme ça, moi.
ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Puis elle, pour illustrer le fait que notre esprit a besoin de prendre une pause des choses complexes, sans pour autant se sentir coupable, la psychologue utilise l'analogie avec les populaires chandails moches de Noël, où tout le monde, tu sais, il y a des chandails moches de Noël qui sont laids, là, et puis qui nous décharge de notre obligation de bien paraître parce qu'on n'a pas besoin d'être à la hauteur tout le temps. Ouais. Puis là, on peut des fois tomber un petit peu dans le quétaine. Alors, savoir à quoi s'attendre, c'est très relaxant. On se pose la question, est-ce que les films de Noël nous rendent-ils plus heureux? Le cerveau humain, il raffole des fins heureuses par celles qui nous donnent du courage. Puis les films de Noël, justement, agissent dessus comme un antidépresseur parce que le cerveau est plus sensible aux émotions positives et aussi ce genre de film-là nous permet de relativiser et se dire que finalement chaque problème a une solution. J'ai quelques petits faits amusants sur les films de Noël.
Oui.
Bon. Tout d'abord, quand on parle de production, l'Ouest canadien est une destination prisée pour les productions de Noël, comme aussi l'Ontario. Il y a Terre-Neuve qui a accueilli en 2023 trois productions et le Québec arrive en quatrième rang. Les films du genre ne sont pas tournés en hiver, mais plutôt au printemps ou au début de l'été, avec de la neige artificielle. C'est un autre fait amusant. Et justement, on répète encore pourquoi on aime tant regarder les films de Noël. Dose d'optimisme, stimule des ondes de récompense de notre cerveau et nous permet de créer des liens entre les générations. Aussi, ben, est-ce qu'il y a des épisodes dans certains téléromans qui sont liés à Noël? On aurait juste à penser ben, aux émissions spéciales, entre autres. Là, il y a aussi dans la Petite Vie, La Petite Vie, Noël Story avec le clan Paris en 2009, hein, au cinéma avec la gang. Et puis, on a aussi le 23 décembre, cinéma québécois.
Oui, c'était 2020. Très bien, en fait. C'était un bon film.
Bon, ben voyez-vous, c'est oui. ça. En 2022. Puis, il y a le dernier film qui a paru l'an passé, en 2024, Le Cyclone de Noël, avec le groupe, là, avec Véronique Cloutier et toute la bande du téléroman.
C'était drôle.
Ben, c'est sympathique.
C'était drôle, c'était sympathique. Ça, effectivement, ça ne demandait pas une grande, grande réflexion travail de cerveau, mais bon, ça fait du bien, là.
Ben, c'est ce qu'on veut aussi. Puis, ben, maman, j'ai raté l'avion. Puis, maman, j'ai encore raté l'avion. Home Alone Again. 1 et 2, ben, écoutez, c'est les tops. C'est dans le top. Il y a le sapin a des boules avec Chase. Et son combat de lumière sur le toit qui est c'est vraiment particulier. Et il y a aussi un beau film en 1946 avec Jimmy Stewart et Donna Reed, La vie est belle, It's a Wonderful Life.
C'est un classique.
Un classique. Et parlant de classique en terminant, Télé-Québec, la programmation Ciné-Cadeau commence dès samedi, le 6 décembre. Alors, asseyez-vous et préparez-vous un bon bol de chocolat chaud avec beaucoup de guimauve et collez-vous dans un fauteuil puis profitez de la vie et de fins heureuses.
Hey, je te confie que je fais ça. Daniel, je fais ça régulièrement dans les fêtes. Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Avec nous. On va revenir tout de suite après la pause de la demi-heure. Puis
oui.
On va peut-être parler un peu de nos films, puis on va continuer avec Louis de Bernis. Tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ah, ben c'est pas Hélène, c'est Denis.
Ben
mais
oui,
il y a un des deux mots qui est bon. Denis Martin, Chabot, Hélène Denis. Il y avait au moins la finale était bonne. Alors, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Alors, on y va avec Daniel. Je voulais juste revenir parce que moi, j'ai eu un devoir à faire hier. J'ai bien vu que tu m'avais posé des questions par courriel. Alors, on voulait savoir quels sont nos films de... Si on aime les films de Noël et quels sont nos favoris.
Et quel est le vôtre?
Alors, moi, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup, oui. D'abord, j'ai un petit côté assez tordu. Alors, Le Père Noël est une ordure et Bad Santa, j'ai vraiment aimé ça. Alors, c'est vilain comme tout, c'est, j'ai bien adoré. Bon.
Mais moi, j'ai surtout le souvenir, c'est drôle, hein, de mes enfants. Il y a eu une époque où il y avait des films qui sortaient comme Beauty and the Beast,
oui.
La Belle et la Bête. Il y avait aussi Lion King. Et puis, on vivait au rythme de ces films-là, puis de la musique. Et puis, moi, ça me rappelle de beaux souvenirs. Puis, ma fille était restée accrochée. À un moment, j'ai raté l'avion. Fait que moi, c'est à travers le souvenir des autres que j'ai apprécié leur engouement pour les films de Noël comme tel. Il y a le film aussi La Vie est belle, It's a Wonderful Life, hein? Et puis, je pense que Le Père Noël est une ordure. Moi aussi, je pense que j'aimerais ça. J'aime rire. Donc, il faut rire.
Ah ouais, ben là, j'avoue, là, j'ai un petit côté tordu. Mais j'ai aussi un petit côté sentimental. Alors, j'ai quand même fait l'effort de... L'année dernière, j'ai vu un film qui s'appelle Divulgacheur, ou Spoiler Alert. C'est un petit peu... Faut que je retrouve le nom du personnage. Donc, c'est l'histoire... j'ai ça ici. Voilà, c'est l'histoire véritable d'un journaliste qui s'appelle... Ah, c'est-tu bête quand l'ordinateur ne va... Voilà, il s'appelle Michael Asuello et il raconte l'histoire des 11 derniers mois de son conjoint qui a été diagnostiqué avec une phase terminale de cancer. Et là, on revoit toute la vie et les hauts et les bas de leur vie Ah, mon Dieu, que ça m'a touché. J'ai pleuré ma vie quand j'ai écouté ce film-là. Puis là, je me suis dit que cette année, je ne le regarderai pas. Faut quand même... On va arrêter ça, ces choses-là. Et j'ai beaucoup aimé aussi L'effet veuf avec... c'est David Levy, là, que... Eugene Levy? Non, c'est le fils, c'est David Levy, c'est ça. C'est qui est gay, lui, qui raconte donc l'histoire de... Justement, il se retrouve veuf et il s'en va à l'appartement de son conjoint qu'il avait à Paris. Et il découvre, oh là là, que son conjoint n'était pas tout à fait une personne... aussi parfaite qu'elle a laissé entendre.
Oh, ça, voyez-vous, ça, c'était pas prévisible.
Ouais. Ben, je sais pas, êtes-vous à l'aise? Oui, vas-y, Louis.
Oui, j'avais pensé, vous l'avez cité, It's a Wonderful Life. Ah, c'est, oui. C'est un souvenir d'enfance que notre père nous avait montré, oui, avec James Stewart et Donna Reed.
C'est un très beau film, oui.
Et plus récemment, j'en ai trouvé un autre, The Holiday, qui avait une belle distribution avec Jude Law, Cameron Diaz, oui. Kate Winslet et Jack Black. Un joli petit film aussi.
Ah, tu vois, c'est pas des films à formule, là. Tu vois, on est capable d'en trouver des bons films. Je sais pas, Mathieu, toi, de ton côté.
Moi, j'aime bien l'escarbouc, le bleu. Je l'écoute en anglais, là, mais c'est un ciné-film avec Sherlock Holmes.
Ah!
Puis ça se passe dans le temps de Noël.
Bon, tu vois, on a des bonnes suggestions pour tout le monde. Hein? Et puis, je vais essayer de. Si on a le temps, je vais peut-être demander à la personne qui fait les réseaux sociaux aussi de faire la liste qu'on a proposée puis la mettre en ligne. Sinon, je le ferai moi-même plus tard sur les réseaux sociaux. Daniel, tu m'as parlé de chansons de Noël. Moi, je suis toujours un peu tordu. Parfait Noël de cœur de pirate, où c'est une situation où elle est fâchée contre son ex. Et puis...
pourquoi pas non plus aussi? Il peut arriver des fois des ruptures,
oui.
Hein?
Oui, oui, oui.
Ouais.
J'adore cette chanson. Ça me fait rire à chaque fois que je l'entends. Puis tu vois, moi, j'écoute ça, puis ça me rappelle Noël.
Ça vous rappelle des petites choses.
Oui, oui, oui. Ah. Écoute, on va arrêter là-dessus. On va aller maintenant du côté de Louis de Bernice. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Puis on se reparle la semaine prochaine. Je t'annonce déjà que je serai là lundi prochain.
Absolument.
OK, à la semaine prochaine. Louis, bon, on n'a pas grugé sur ton temps, ne t'en fais pas, on en a amplement dans cette demi-heure. On va parler du Black Friday ou du Vendredi fou. Alors, dans l'insolite, il y a un petit magasin qui s'est fait avoir, là.
Oui, une
Italie.
Chaîne de magasins, même, vendredi passé. Le réveil doit être un peu brutal pour eux en ce lundi. Et ils ont des problèmes. L'affaire était bonne, peut-être trop bonne. Imaginez une promo de 98% de réduction sur des iPads, en plus. On parle d'objets que beaucoup de gens recherchent. Ça ne se voit pas tous les jours, une telle promotion. Elle était peut-être un peu trop belle pour être vraie, mais il y en a quand même certains clients qui ont tenté leur chance, qui n'ont pas été trop méfiants et qui ont placé bien l'enseigne Media World pour la cité en Italie dans une situation assez délicate. C'est une chaîne de magasins, elle est spécialisée dans la vente de matériel, high-tech, électroménager, tous les équipements pour la maison. Et dans le cadre du Vendredi fou, elle a proposé des soldes privés à ses clients détenteurs de la carte de fidélité, rapporte notamment le Corriere della Sera. C'est dans le cadre de cette opération en ligne qu'une erreur s'est glissée. L'iPad Air M3, un des plus récents, était proposé à 15€ tout simplement au lieu des 784 qu'ils auraient dû normalement réclamer. L'erreur n'a pas échappé aux clients les plus attentifs et les plus joueurs aussi, hein, parce que quand on voit un tel prix, on peut être tenté d'être surtout sceptique et prudent. Non, certains ont tenté leur chance. Alors Media World, la compagnie ne précise pas combien de commandes ont été enregistrées, mais il est d'ores et déjà établi qu'un certain nombre de ses clients ont déjà été livrés avant que la boulette ne soit détectée et que l'offre ne soit retirée. Ces clients très gâtés ont reçu un courrier officiel les invitant à restituer ces tablettes premium acquises pour une bouchée de pain. S'ils souhaitent la conserver, il leur faudra payer 619€ supplémentaires. Une petite ristourne de 150€ étant donc consentie. Et ceux qui accepteront de rendre la tablette se verront rembourser leurs 15€ et créditer en plus de 20€ en bon d'achat. Comme on peut l'imaginer, certains des clients ne semblent pas vraiment décidés à rendre la tablette, hein, ils la considèrent comme la leur. En théorie, la loi italienne leur impose pourtant de les restituer. En effet, selon le code civil italien, le code civil autorise un commerçant à annuler un contrat de vente dès lors que l'erreur manifeste pouvait être détectée par l'acheteur. Mais dans le cas de présent, ce qui va peut-être donner lieu à des batailles d'avocats, c'est que les choses ne sont pas si simples, car la méprise sur le prix est intervenue dans le cadre de la période du Vendredi fou. Les promotions sont légion à cette période de l'année, et donc certains clients auraient pu penser de bonne foi que la promotion était réelle. En tout cas, la compagnie a choisi d'engager une procédure en justice contre les clients réticents. Ceux-ci ne manqueront sans doute pas de faire valoir leur bonne foi. Affaire à suivre, donc, on verra s'ils peuvent garder ces iPads à prix plus que cassé.
Je pense qu'au Canada, ça ne fonctionnerait pas. Hein. Les contrats de vente, tu payes le prix qui est affiché.
Exactement.
Et si tu as fait une erreur, c'est ton problème, oui. C'est la compagnie. En tout cas, encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai...
C'est que ça l'est.
On va aux États-Unis maintenant, 95 ans. Il refuse de prendre sa retraite.
Oui, partons à Wichita Falls et je vous présente Raymond Hager. Il est connu dans cette ville de 100 000 habitants du Texas comme le loup blanc là-bas. La ville a hissé ce chauffeur de bus au rang de star local après une entrée remarquée récemment dans le Guinness Book. Son record, effectivement, est bien continuer à assurer des tournées de bus à l'âge très respectable et très expérimenté de 95 ans. « Je suis le plus vieux chauffeur de bus du monde », raconte-t-il assez souriant et fier. À l'heure, par exemple, oui, souligne l'article où le débat fait rage, notamment en France, par exemple, sur l'âge de départ à la retraite, où on parle de 60, 62 ans, chacun se fait son avis. Le nonagénaire américain, lui, a dépassé tout ça depuis longtemps et fait figure d'ovni. Raymond Hager s'était d'abord fixé l'objectif d'atteindre ses 95 ans pour faire valoir ses droits à la retraite. Et puis, il s'est finalement ravisé, il a changé d'avis, lorsque la date de son anniversaire a sonné, c'était le 18 novembre dernier. Cette fois-ci, plus de limites dans sa tête. Il prévoit de conduire son bus tant que sa santé le lui permettra. Il n'est pas peu fier de son sacre mondial qui lui a valu une autre récompense, peut-être celle qui le touche le plus. La ville de Wichita Falls vient de rebaptiser le 18 novembre, son jour d'anniversaire, la journée Raymond Hager. Mmh. Il sera donc célébré chaque année à partir de maintenant. Comme il l'a dit à la presse locale, je suis reconnaissant d'être ainsi mis à l'honneur. Je suis un petit garçon de la campagne qui a accompli quelque chose comme ça. Il était ému, on l'a senti au moment de déclarer ça. Petit point aussi légal dans cet article, c'est intéressant. La loi fédérale américaine ne fixe pas de limite d'âge légal pour travailler. Aussi, un employé ne peut pas être contraint de prendre sa retraite sur le seul critère de l'âge. Pour certains métiers où la sécurité est critique, l'employeur peut toutefois exiger des examens médicaux réguliers pour s'assurer que le salarié est toujours en mesure d'assurer pleinement son poste. Dans le cas de M. Hager, tant que ses tests sont passés avec succès, et c'est le cas, rien ne s'oppose à la poursuite de son travail et il peut continuer à conduire son bus.
C'est comme les enseignants dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est en une du devoir, si je me trompe pas, qui, en fait, on leur préfère des gens qui n'ont pas de diplôme que de prendre des gens qui sont retraités parce qu'on dit que ça coûte trop cher. Mm-hmm. Alors, les gens sont quand... j'en suis un exemple, moi. Je suis retraité et je travaille encore. Hein? On a le temps.
Oui.
On va parler de petits chiens, les chihuahuas qui ont de l'ADN de loup. Moi, je peux vous dire, j'ai un Yorkshire, c'est clair qu'il y a de l'ADN de loup.
Et voilà, oui, c'est ça qui m'y a fait penser. Il y a une étude qui a paru récemment, publiée par le Muséum américain d'histoire naturelle, notamment par la chercheuse Audrey Lynn, qui a fait une vaste étude pour prouver, montrer les liens entre chiens et loups, qui sont deux races relativement proches. C'est établi depuis longtemps qu'il y a 20-25 000 ans, les deux races étaient vraiment confondues. Ça s'est séparé à cette époque-là. Mais ce que l'étude révèle de nouveau, c'est que depuis 20-25 000 ans, il y a eu des croisements quand même. Les races ne sont pas complètement séparées. Et aujourd'hui, on estime que 64% des races modernes ont des traces de loups dans leurs ADN, dans leurs ancêtres. Et c'est effectivement ça qui a attiré mon attention. Les chihuahuas, qui sont peut-être les plus petits et les plus connus des chiens, portent en eux, alors c'est seulement 0,2% de traces d'ADN, mais comme le souligne la chercheuse, tous ceux qui possèdent un chihuahua trouvent cela parfaitement logique et comprennent cette affirmation. Autre donnée amusante dans l'étude, c'est pas parce que le chien est gros qu'il a forcément plus en commun avec le loup. Par exemple, les Saint-Bernard, on pense ces énormes chiens de montagne qui peuvent sauver, notamment dans les Alpes, eux n'ont absolument rien en commun avec les loups, 0%. Donc même le chihuahua est plus proche du loup que le Saint-Bernard.
Et on connaît comment ça fonctionne, hein? Moi, mon petit chien qui fait quoi, 6 livres, là, mm-hmm. Quand il rencontre un chien qui est 10 fois plus gros que lui, le chien qui est 10 fois plus gros que lui a peur du mien.
C'est dans la tête.
C'est à ne rien comprendre, mais c'est comme ça la vie. Ah, on va se reparler la semaine prochaine.
Avec plaisir.
On s'en va en musique.
toujours à te regarder, de comprendre comment tu vois les choses passer. Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui, et à chaque moment la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque.
Mais c'est toujours les vacances. Avec toi, c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand on est ensemble, quand on est ensemble.
Un autre jour à me demander comment je faisais avant. À quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie où tout n'était que soucis. Mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que s'étirent les heures, que tout reste au beau fixe.
Et c'est
toi, c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Les trois accords et cœur de pirate qui chantaient toujours les vacances.
Bonjour, je m'appelle Bruno.
Donald.
Jacques.
Ken.
Yves.
C'est le signal qu'il faut exclure.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une petite promo là, de ce projet, en fait, de ce programme ou de ce site web qui s'appelle Je suis Séropo. Parce qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida. Un enjeu essentiel se rappelle à nous, celui de la visibilité des personnes vivant avec le VIH, parce que malgré les avancées médicales, le Québec fait face à une montée de la désinformation en ligne qui isole et stigmatise donc les personnes vivant avec le VIH. Pour contrer cette vague, la COXSIDA, qui est la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, lance une nouvelle version de son site unique en son genre qui s'appelle jesuisseropo.org. Et relance donc sa puissante campagne de témoignages. Et pour en parler, nous accueillons Thérèse Yel. Elle est responsable des contenus numériques à la COXSIDA et chargée de projet de ce projet de refonte. Bienvenue à l'émission, Thérèse.
Merci. Bonjour, Denis Martin.
Oui, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. C'est quoi le message clé là, que la COXSIDA souhaite véhiculer cette année avec Je suis Séropo?
Alors, je dirais que c'est vraiment de remettre les personnes vivant avec le VIH au centre de la conversation en cette journée où on a tendance à parler de la montée des cas de VIH du côté plus médical.
Oui.
Évidemment, c'est extrêmement important. Nous aussi, on est très concernés par cette hausse, par les barrières.
Puis, il est vrai que ça, on va pas dans le bon sens. Là. C'est vrai que ça va vraiment pas bien. Là. Les nouvelles sont pas bonnes à ce niveau-là. Mais bon, au-delà de ça, puis on en parle déjà assez, il faut parler des personnes qui vivent avec le VIH.
C'est ça, exactement.
Donc, cette année, donc, on a choisi de mettre l'accent sur la voix des personnes séropositives.
Oui, tout à fait. Donc, on trouve beaucoup qu'en ligne, comme ailleurs, on en parle sans donner le micro aux personnes directement concernées. Et surtout, ce qui en ressort, c'est de la désinformation, des propos parfois discriminatoires, même quand c'est pas voulu. Les gens n'utilisent pas les bons mots, les bons termes, ils n'écoutent pas la voix des personnes directement concernées. Donc, nous, avec ce site, ce qu'on veut faire, c'est donner aux personnes séropositives, de la province, une tribune d'expression, en plus d'une source d'information aussi. Donc, on veut faire de ce site une source d'information fiable avec des infos qui ont été vérifiées. Donc, voilà.
Alors, on parle donc de cette désinformation, voire même de la haine. Comment ça se manifeste concrètement là, pour les personnes vivant avec le VIH au Québec?
Ben, par exemple, moi, je peux vous parler de ce que je vois en tant que responsable des contenus numériques. Ben, sur les réseaux sociaux, dès qu'on a une publication qui est un peu plus vue, il va y avoir des commentaires extrêmement discriminatoires avec des termes que je ne répéterai pas parce que je n'ai pas envie de leur donner de la visibilité. Mais nous, on doit faire beaucoup de... On appelle ça de modération,
oui.
Pour que ces propos-là n'aient pas plus de visibilité qu'ils n'en méritent et qu'à l'inverse, la bonne information puis les voix des personnes concernées soient mises en avant et qu'on voit l'humanité, en fait, derrière le VIH, qu'on a l'impression qu'il manque beaucoup en ce moment.
Mais une des choses que les gens semblent oublier, c'est qu'une personne vivant avec le VIH qui a une charge virale indétectable ne transmet pas la maladie.
Et oui, exactement.
Alors, ces personnes-là sont les moins dangereuses, finalement.
Exactement.
Oui. Alors, comment le site je suis séropo.org devient donc ce lieu idéal pour le contre-discours?
Alors, pour nous, on voulait créer un environnement extrêmement accueillant, extrêmement facile à naviguer. Et donc, voilà. Donc, il y a deux volets vraiment très importants pour nous. Donc, le volet informatif, c'est sûr, mais surtout le volet histoire partagée, donc, qui est une des pages principales du site. Qui est un lieu de témoignage. Donc, à l'origine du Séropo, c'était un blog avec des témoignages et on a voulu vraiment garder cet espace unique en le modernisant un petit peu, c'est sûr, mais en le gardant, parce que pour nous, c'est vraiment le plus important. Et aussi en le rendant un petit peu plus facile d'accès, donc avec un formulaire.
Oui.
Un formulaire très rapide à remplir où les gens peuvent nous écrire une histoire de 500 mots, comme ça peut être deux lignes, un peu en format confessionnal finalement. Et les gens ont le choix de garder l'anonymat ou non. Donc, c'est sûr que la campagne Je suis séropo, dont vous avez passé un petit extrait, c'est des gens qui ont dévoilé et témoigné à visage découvert. Cependant, on a tout à fait conscience qu'en ce moment, en plus avec la montée des discours de droite, réactionnaires et discriminatoires, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de dévoiler à visage découvert. Et on veut quand même que ces voix-là soient entendues. Et on sait jamais si une personne commence anonymement, peut-être que éventuellement avec les retours positifs ou en trouvant du soutien avec d'autres personnes vivant avec le VIH qui, elles, sont rendues plus loin dans le processus, peut-être que cette personne-là aura l'envie de dévoiler à visage découvert un jour. Donc, c'est l'espoir qu'on a et que les voix soient entendues, vraiment, le principal.
Alors, quelles sont les nouveautés majeures là, de cette version ou de ce relaunch ou relancement là, de Je suis séropo.org?
Oui, alors c'est vraiment une refonte totale. Donc, à l'origine, le blog, c'était un blog. Donc, pour soutenir la campagne de sensibilisation, Je suis séropo. Donc, c'était un format qui était très populaire dans les années 2011-2012. Donc, des textes qui étaient écrits par des personnes vivant avec le VIH et des alliés. Puis ça a perdu un petit peu de la vitesse, le format blog. Donc, on a vraiment refait au complet. C'est un site web qui n'est plus format blog, donc qui a volet informatif et volet histoire partagée. Évidemment, le visuel a beaucoup changé aussi. On était dans des teintes noir et blanc, rouge, qui avait quelque chose de sérieux, c'est sûr. Pas d'inhéremment négatif, je dirais pas ça, mais avec le comité Parole positive, donc qui est un comité consultatif avec lequel on a fait ce travail-là. Et on a décidé qu'on voulait de la couleur, déjà. Donc, de la couleur, quelque chose de moderne, quelque chose de qui bouge un petit peu. Donc, on a des petites animations, on a des couleurs beaucoup plus vives, des typographies un peu plus audacieuses, un peu plus marquées. Et une navigation qu'on espère, en tout cas, c'est les usagers qui vont nous le dire, mais une navigation fluide qui permet aux gens de trouver un peu la réponse à leurs questions. Parce qu'on sait que c'est un site assez volumineux, donc on a mis autant d'informations qu'on pouvait pour répondre aux questions des personnes vivant avec le VIH. Mais on espère qu'avec les fonctionnalités qu'on y a mis, les gens pourront poser leurs questions dans la barre de recherche, par exemple, ou quelques mots-clés et trouver la page qui leur convient sur le site.
Moi, j'ai eu la chance, parce que vous m'avez envoyé là, des liens pour que je puisse voir avant tout le monde les cinq témoignages vidéo. Donc, Bruno, Donald, Jacques, Ken et Yves.
Oui.
Quel est le concept de ces nouvelles capsules? Parce que je pense qu'ils réagissent à leur propre témoignage qui date peut-être de 2012-2013.
Exactement. C'est une idée qu'on a eue déjà parce que c'est un format que nous, on aime regarder. Donc, on a toujours un bon début de se dire « moi, j'ai envie de voir ça » et les personnes vivant avec le VIH ont envie de voir ça, surtout. Donc, on a eu cette idée-là et on est très contente que ces cinq personnes aient répondu à l'appel. Ça a été des tournages très, très agréables. Très. Les premières vidéos étaient très léchées, ce qui est super positif. C'était le fun de faire une grosse production avec des personnes vivant avec le VIH. Ça aussi, ça les mettait au centre de la conversation du moment. Mais on a fait quelque chose d'un peu plus, comment dire... téméraire, c'est pas le bon mot.
Ouais, peut-être, serait audacieux ou peut-être genre TikTok ou tu sais quelque chose qui est moins, qui est plus sur le fait, hein, plus improvisé.
Exactement, ouais. C'est ça. C'est le mot que je cherchais.
Ouais.
Donc, dans un format qui marche aujourd'hui, finalement, disons les choses comme elles sont, que les gens ont envie de voir. Et c'était aussi l'expérience de tournage était très agréable parce qu'on avait vraiment une discussion avec chacun de nos porte-paroles. Et oui, ils réagissent à leur première vidéo. Donc, ils nous disent un petit peu si tel ou tel projet dont ils parlaient s'est réalisé et aujourd'hui, où ils en sont. C'était vraiment beau de faire ce lien avec le passé, avec ces cinq personnes-là. Puis on espère que d'autres aimeront revoir leurs vidéos parce qu'il n'y avait pas juste eux, il y en avait plusieurs autres qui ont déjà fait des vidéos par le passé. Et ben, on espère aussi que des nouvelles personnes auront envie de faire des vidéos avec nous. Le site en tant que tel, donc le petit formulaire dans le site, il propose pour l'instant juste texte et images. Par contre, il y a déjà tout de suite un courriel qui est donné aux personnes qui ont tout de suite envie de faire un peu plus que ça. Donc, si quelqu'un a envie de faire une vidéo, un projet audio, un projet artistique, vraiment n'importe quoi, et que ça ne rentre pas dans le cadre du petit formulaire, ils peuvent me rejoindre à mon courriel de la Cotida. Donc, on espère vraiment avoir le plus de gens possible qui vont vouloir témoigner.
Thérèse, il y a beaucoup de témoignages intéressants, mais il y en a un qui me touche parce que c'est quand même quelqu'un qui a 80 ans.
Oui.
Hein, on peut le nommer, c'est Jacques, là.
Oui, c'est Jacques, tout à fait.
C'est hallucinant comment, quand il parle de sa vie et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui vit avec le VIH depuis longtemps.
Mm-hmm, oui.
Hein, ce qui démontre qu'on n'en meurt pas nécessairement. Je me demandais, quel est l'espoir que vous avez quant à l'effet de ces histoires-là sur le grand public?
J'espère. Ben c'est un peu un espoir similaire à quand le site a été lancé au début, mais surtout dans cette période où on recontextualise, donc la montée de la droite est très présente. On ne met pas les personnes concernées au centre des discours. Et il y a des reculs des droits extrêmement importants pour... toutes les communautés marginalisées, dont les personnes vivant avec le VIH font souvent partie. Donc, on espère vraiment, c'est montrer l'humanité derrière ce mot VIH que les gens parfois ne comprennent pas, ne connaissent pas. Des fois, on dit plus SIDA que VIH encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui.
Oui, c'est ça. C'est vraiment mettre l'humain au centre. Et on le sait, les études l'ont prouvé, l'expérience humaine l'a prouvé. Quand les gens connaissent ou ont l'impression de connaître une personne dans une situation entre guillemets marginale, tout de suite, leur point de vue qui pouvait être plein de préjugés va pouvoir changer. Donc, on espère faire ce lien-là à travers des vidéos. Et on souhaite de tout cœur que ça ait une belle portée. En plus de rejoindre les personnes vivant avec le VIH en tant que telles et de leur montrer qu'il y a de l'espoir.
Oui.
Il est possible de bien vivre, d'être heureux et même de témoigner publiquement, même dans un monde difficile comme le nôtre.
Bon, puis je fais un petit commentaire, c'est pas une critique, mais il y a très peu de femmes présentement qui se mettent de l'avant et qui dévoilent leur statut de séropositivité. On espère peut-être que ça va changer.
Absolument. On a fait un petit événement de lancement de ces vidéos et du site vendredi passé et on a fait un panel qui discutait justement du témoignage public des personnes vivant avec le VIH et pourquoi c'est plus facile, disons les choses comme ça, d'avoir des hommes blancs, cis, hétéros de plus de 50 ans. Donc, c'est des gens qui, des fois, ils nous l'ont dit, pour eux, ils ont la sensation de ne plus avoir grand-chose à perdre, entre guillemets, alors que certaines personnes ont encore tout à perdre. Et donc, pour nous, on espère fortement réussir à rejoindre des personnes qui vont Le courage n'est pas le bon mot parce que le courage, c'est non, vraiment tout le monde en a.
Oui, d'avoir la capacité de le faire parce que c'est pas donné à tout le monde. Thérèse, on va devoir s'arrêter ici. Je vais rappeler que le site je suis séropos.org va être dévoilé aujourd'hui, la nouvelle version du site. On peut aller voir dans cette section Histoire partagée qui se retrouve aussi sur la chaîne YouTube de la Coxida. Et merci beaucoup, Thérèse Yel, responsable des contenus numériques à la Coxida.
Merci beaucoup, Denis Martin.
Merci.
Au revoir.
Bon, on va parler du Messie de Handel après la pause, et puis on va aussi parler d'adoptions qui ont été sous le signe du grand secret pendant longtemps avec notre invitée qui s'appelle Renée Tanguay, qui est autrice de Retrouvailles sous le sceau du secret.
Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On vient d'entendre un extrait de ce fameux chant, le Alléluia incontournable du Messie de Handel. C'était enregistré avec l'Orchestre classique de Montréal l'an dernier, je crois, à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Cette année, l'Orchestre classique de Montréal, lauréate du prix Juno 2024, renouvelle cette tradition des fêtes avec son tout nouveau directeur musical. Nous accueillons aujourd'hui donc André Fer, qui est à la tête de l'OCM sous sa direction. Donc, l'œuvre sera présentée à nouveau dans le cadre enchanteur de la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph ce jeudi 11 décembre. Maestro Fer, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, l'OSM a une longue histoire avec le Messie. En tant que nouveau directeur musical, comment vous allez renouveler cette tradition annuelle?
Je pense que, en fait, un détail un peu banal, mais très technique, c'est que cette année, je travaillais sur le matériel, les partitions qu'on a depuis quelques années. Et je me suis dit, est-ce que ça serait peut-être pas le temps d'avoir des partitions propres et un nouveau matériel pour repartir à neuf, justement? Et donc, on a acheté un tout nouveau matériel que j'ai annoté un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications et chaque chef annote un peu cette partition-là comme il veut aussi, dépendamment de ce qu'il recherche. Donc, ça a commencé un peu par ça, d'avoir un nouveau matériel tout propre et partir de là dans une nouvelle idée, mais bon, les gens sont habitués à le jouer à chaque année, donc c'est vraiment... Il faut faire un mélange entre ce qu'on peut changer rapidement et ce que les gens sont habitués de faire à chaque année, mais j'ai très hâte d'embarquer dans cette aventure-là pour la première fois avec l'Orchestre classique.
Alors, comment abordez-vous donc cette œuvre?
C'est une œuvre très, très particulière parce qu'un oratorio... C'est bien entendu, avec l'histoire, c'est une œuvre religieuse, donc sacrée. Donc, c'est très. Il y a comme la plupart du temps, il y a une espèce de distance aussi face au sujet, parce que bon, c'est tout ce qui est très sacré, il fallait faire attention aussi pour ne pas en faire trop. L'opéra, c'était l'autre côté où on peut mettre en scène, avoir quelque chose de plus dramatique, plus personnel. Sauf que Handel était un compositeur d'opéra italien aussi. Et donc, cet oratorio-là, en fait, c'est très... Il s'est inspiré beaucoup de l'opéra italien et je trouve que c'est très dramatique en soi comme œuvre. Et souvent, ce que les oratorios font aussi, c'est qu'on a les personnages qui parlent ou qui récitent certaines choses, alors qu'ici, Handel a décidé de ne pas mettre... Il n'y a personne qui est personnifié. Il n'y a pas de personnage. Il y a des solistes, mais on ne sait pas qui parle. On ne sait pas qui fait dérouler l'action, et c'est comme un grand tableau de toute la vie du Messie, donc les prophéties, sa naissance et sa mort, et aussi le après aussi. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, et ça a permis, je pense, une liberté puis une flexibilité dans la façon dont il a composé, puis d'avoir le texte aussi sous la main. Donc c'est une œuvre qui est très particulière parce que ça reste pas aussi... Il n'y a pas cette distance-là ou cette froideur un peu stoïque face aux religieux. Donc, Handel, il s'est amusé un petit peu avec ça. Donc, ça fait que, dès le début de sa composition, cette œuvre-là a été très, très populaire et ça a touché beaucoup les gens parce que c'était quelque chose de plus humain, plus chaleureux aussi dans la façon dont le sujet était traité, là.
Quelle sera, si je peux me permettre, votre touche personnelle cette année à cette œuvre?
Mais je pense que j'aime bien aller dans cet aspect-là un peu dramatique italien où on peut exagérer certaines nuances, certains points dramatiques de l'œuvre. Donc, dans la deuxième partie de l'oratorio, le chœur est très... Il y a beaucoup de parties qui sont très, très corsées, très dramatiques. Et je pense qu'on peut aller très loin dans le caractère de ces chœurs-là. Et j'aime bien aussi, à travers le dramatisme de l'œuvre, d'avoir une fin aussi qui finit un peu en méditation un peu. Donc, c'est très, je pense que c'est vraiment l'arche dramatique et de ressortir chaque mouvement et dans chaque mouvement, il y a différents aspects dramatiques différents, que ce soit quelque chose de plus de recueillement ou quelque chose de plus dramatique et très, très sombre aussi. Donc, moi, j'aime bien aller chercher ces couleurs-là pour faire vraiment une différence à travers chaque mouvement parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de mouvements très courts, mais qui se suivent un après l'autre. Donc, de construire à travers ça et d'avoir une arche bien construite à travers 2 heures de concert.
Vous avez touché à ça tout à l'heure, mais je vais quand même revenir là-dessus. Pourquoi, selon vous, le Messie touche-t-il autant de monde, autant de gens chaque année, puis ça revient, puis encore de nos jours, puis on voit que les gens sont comme une espèce de... Collectivement, ils sont exaltés là, par cette œuvre.
Oui, bien, en fait, je pense que... Handel a été un compositeur très intelligent aussi, qui mettait beaucoup d'efforts et beaucoup de passion dans ce qu'il composait, mais aussi il essayait de trouver peut-être un succès à travers les œuvres créées. Donc, il mesurait le succès en fonction de la popularité ou de la réaction du public dans ce temps-là. Et ce que le Messie a fait, en fait, c'est qu'en Angleterre, les sociétés chorales se sont beaucoup développées. À travers le 19e siècle, ça chantait énormément. Et la touche magique de cette œuvre-là, c'est que comme aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, ça peut être fait avec autant des chorales professionnelles que des chorales où il n'y a que des amateurs. Parce que ça se chante bien. La plupart des choses ça demande, c'est un défi, mais ça se fait très bien, ça se chante bien, ça fait pas peur à personne nécessairement. Donc, c'est quelque chose qui est un défi qui est très, très plaisant à relever parce que ça se fait très bien. Donc, je pense qu'avec le développement des chœurs aussi en Angleterre à cette époque-là, ça a permis à ce que l'œuvre soit facilement jouée et chantée sans aucun énorme problème. Comme des fois, la musique contemporaine peut être très compliquée et ça éloigne un peu les gens tellement ça peut être complexe, alors que celle-ci est d'une complexité extraordinaire, mais techniquement, ça peut... les limites sont pas aussi difficiles que d'autres œuvres. Donc, ça a permis de gagner en popularité assez rapidement. Et je pense aussi le sujet, comme il est traité un peu plus chaleureusement, et d'avoir un rapport très, très humain au sujet, à la vie de Jésus aussi, de ses souffrances, de ce qu'il a vécu. Je pense que ça joue en partie beaucoup de la popularité de cette pièce. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de chorales dans le monde, que ce soit amateur ou professionnel, cette œuvre-là est chantée partout, là.
Donc, vous allez jouer dans la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Quel rôle l'acoustique et l'atmosphère de l'oratoire jouent-elles dans la manière dont vous allez diriger cette œuvre et dans l'expérience du public?
Bien, c'est un lieu très spirituel, donc ça aide déjà d'être dans une atmosphère et dans ce bain-là tout de suite. On répète aussi dans la crypte, donc on est directement dans l'acoustique de l'oratoire. Je pense que c'est vraiment un son spécial qui donne une expérience différente au public, certainement. Salle de concert, c'est toujours un bel endroit, mais je pense que pour une œuvre comme celle-là, c'est difficile à recréer dans une salle de concert cette atmosphère-là avec le décor qui entoure aussi la crypte. Donc, c'est très aussi espèce de... Je pense que ça permet plus de recueillement aussi également. Et comme j'aime bien croire à l'expérience du concert et de ce qu'on fait, nous, à l'orchestre classique et en général dans la musique classique, c'est vraiment un moment où on peut apprécier de la musique ensemble, en communauté et sans être bombardé par des courriels ou des messages textes à chaque 2 secondes. Et donc, ça permet vraiment cette atmosphère-là de recueillement, oui, et de méditation aussi avec chacun de nos expériences de vie personnelle. Donc, je trouve que c'est vraiment une expérience unique et dans un lieu unique pour cette œuvre-là.
Oui, on va rappeler aux gens d'éteindre leur cellulaire et leur montre et leur pagette, ça n'existe plus trop tôt. Et surtout, je vais le dire, de ne pas applaudir après chaque morceau que vous trouvez beau, parce que habituellement on attend à la fin de l'oratorio pour applaudir. Mais en tout cas, faites-vous lever debout les gens pendant le Alléluia?
Je pense que les gens le font naturellement. Ça dépend des endroits dans le monde, mais je pense que de ce que j'ai vu par le passé, les gens le font naturellement. Donc, et je l'ai fait l'année dernière en Roumanie, par exemple. Et oui, les gens se lèvent et il y a une espèce de tradition non dite que c'est une espèce de moment fort dans l'oratorio, ce mouvement-là. Donc, oui, et les gens chantent aussi. Hein.
Ah oui?
Ça arrive souvent que les gens... Ben oui, parce que c'est tellement connu et c'est tellement... beaucoup de gens l'ont soit déjà chanté, comme je disais, dans des chorales un peu partout dans le monde ou à Montréal ou au Québec. C'est quelque chose qui est très, très connu. Donc, ça peut arriver assez souvent que les gens chantent avec le cœur aussi.
Oui, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a le cœur, en fait, des filles... les chœurs québécois Filles de l'île et chantres musiciens. Puis je vais rappeler qu'il y a Jacqueline Woodley, soprano, et la mezzo-soprano Camilla Montefusco, et le ténor Adam Luther et le baryton Jamal Altiti qui seront là. Et je rappelle aussi donc que c'est le 11 décembre à 19h30 à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Les billets sont en vente sur le site de orchestre.ca, 20 $ à 99 $. Maestro Ferrer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée.
Bonne journée.
To
La chanson Canaille immortelle de Wizard.
Bien, on va aborder maintenant un pan très douloureux de l'histoire du Québec, l'adoption sous le sceau du secret. Une réalité qui a touché près de 300 000 enfants entre 1900 et 1972. Et nous recevons donc pour en parler Renée Tanguay, autrice de Retrouvailles sous le sceau du secret, qui témoigne, bien, c'est un roman, mais qui est basé sur son histoire. Puis elle va nous expliquer ça. Bonjour Renée.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci de m'accueillir.
Bon, puis il y a bien d'autres choses qu'on peut dire de vous, de toi, parce que tu as travaillé aussi à l'émission de Claire Lamarche.
Oui, c'est complètement un hasard, parce que quand j'ai commencé avec Claire en 97, c'était vraiment pas dans le but de... C'était vraiment pas dans le but, un jour, de faire des retrouvailles, là. Mmh. C'était parce que je voulais vraiment travailler avec Claire. Pour moi, c'était l'émission sur laquelle il fallait que je travaille. Et donc, et c'est en 99... que j'ai fait la demande pour retrouver mes racines biologiques. Mmh. Alors, et c'est pas par l'entremise de l'émission que je les ai retrouvées. J'ai fait vraiment la demande à Québec, en bonne et due forme. Oui. Et ils ont recommuniqué avec moi et c'est ça.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu es impliquée depuis longtemps dans ce mouvement-là, oui. Puis d'en faire une histoire, c'est quand même intéressant, justement, parce que tu as été adoptée à 8 mois par des parents aimants. Je pense que tu aimes tes parents adoptifs, là, c'est
énormément.
Clair. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir le besoin de connaître ta mère adoptive?
C'est drôle parce que c'est justement par l'entremise d'une émission de Claire. Je m'occupais en 99, c'est moi qui devais mener le show de la fête des mères. Et le thème, c'était « Pour la fête des mamans, je veux retrouver mon enfant ». Et je ne sais pas, ça m'a particulièrement interpellée. Et suite à ça, j'ai envoyé ma demande. Et c'est le 5 janvier 2000 que j'ai reçu l'appel qu'elle venait de parler avec ma mère.
Ouais.
Et je retrouvais aussi toute une famille.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, c'est une aventure qui a duré 8 ans et demi.
Ah bon?
Et jusqu'à la mort de mon père biologique. Et c'était un très, très, très long tour de montagne russe.
Oui. Pourquoi?
Vraiment.
Okay, bon, allons-y d'abord, le désir de retrouver vos parents biologiques, c'est arrivé aussi à la naissance de ta fille, c'est ça?
Ma fille, je l'ai eue en 90.
Oui.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais ma fille, ça m'a quand même Oui, quelque part, il y a de ça aussi. Parce que là, j'étais maman. Et donc, je pouvais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, moi, quand moi, enfant, je suis née.
Ouais. Hein?
Parce que ma fille, elle était bien entourée, elle, quand elle est née. Mais moi, j'étais à une crèche. Est-ce qu'on m'a bercée? Est-ce qu'elle m'a serrée dans ses bras? Est-ce que j'ai vu... Alors, c'est tout ça, tu sais, je veux dire, qu'on se demande. Alors, sans doute la naissance de ma fille, plus l'émission de Claire, ça a fait que j'ai décidé de les chercher. Et je cherchais ma mère et j'ai trouvé toute la famille. Alors, c'était plus que le client demandait, dans le
wow.
fond.
Bah, je vois que ça te touche énormément. Si les questions sont trop intimes, tu me le diras. Mais tu as dit tout à l'heure que c'était des montagnes russes émotionnelles. Pourquoi?
Parce que lorsqu'un enfant retrouve sa famille biologique, la plupart du temps, personne ne savait qu'il existait, cet enfant-là. Alors moi, quand je suis débarquée, à part mes parents, personne ne savait mon existence. Alors tu débarques carrément comme un chien dans un jeu de quilles. Et alors il y a de tout. Il y a des gens qui sont extrêmement contents que tu débarques. Il y a des gens qui sont plus ou moins contents, ça sème de la jalousie, ça sème... je peux aussi comprendre, hein, là, ça bouleverse des vies, tu sais, parce qu'ils n'étaient pas au courant du tout de mon existence et j'étais quand même rendue à 45 ans.
Ouais.
Donc, tu retrouves tu sais, une famille vraiment déjà organisée, structurée et tout ça, et toi... Tu arrives en tant qu'aînée aussi, hein? Et là, tu prends la place de celle qui est l'aînée, celle qui est la plus jeune. Et c'est comme si on vient grabiller un petit peu des petits morceaux de l'attention qu'elle avait, particulièrement avec mon père. Donc, tout ça, c'est... Quand je dis c'est une quête émotionnelle sur fond historique, c'est que moi, j'ai pas voulu écrire ma vie. Ça m'intéressait pas du tout. Alors, je voulais d'emblée faire un roman. Et c'est en cherchant dans les archives des Sœurs du Bon Pasteur que là, j'ai découvert des petites perles. Mmh. Alors, comme tu as lu mon livre, tu sais que je mets en scène quelque chose que personne ne sait au Québec. Même les historiens l'ignoraient. Hein? Je ne sais pas si je peux en parler.
Oui, tu peux en parler. Sans trop que tu veux le gâcher, tu peux en parler.
Alors, quand je découvre dans les archives des Sœurs du Bon Pasteur que quand une fille, peu importe la fille, qui entrait à la crèche pour porter et accoucher de son enfant, peu importe son statut social, elle changeait son nom. Elle devait porter un pseudonyme. Mais les filles qui étaient issues d'un milieu aisé, d'une famille bourgeoise, devaient non seulement changer de nom, mais elles devaient se voiler. Elles avaient premièrement une chambre privée, ce qu'on appelait la chambre des privés, et dès qu'elles sortaient de cette chambre-là, elles devaient se voiler. C'est pas des farces, là. Tu sais, et c'était un voile assez épais, bleu marine, pour se distancier des sœurs qui, lui, étaient noires. Et comme je te dis, dès qu'elles sortaient de la chambre, elles devaient se voiler.
Pour ne pas être reconnues, donc.
Pour ne pas être reconnues du tout, l'anonymat à tout prix, pour sauver la réputation des parents.
Et c'est choquant, oui.
Et donc, elle faisait tout avec le voile. Marcher, se nourrir, aller à la prière, se confesser. Elles ont même eu leurs examens gynécologiques avec le voile. Elles ont même accouché voilée. Alors, c'est l'époque du péché. C'est l'époque des enfants qui sont... C'est ça, des enfants du péché qu'on doit cacher.
Toi, quand tu as retrouvé ta mère, c'était comment? Cette première rencontre?
La première chose, il y a eu un appel téléphonique, tout d'abord. C'est-à-dire qu'on s'est écrit, on s'est envoyé des photos. Et là, ensuite, il y a eu un appel téléphonique. C'est d'abord à elle que j'ai parlé. Elle s'est nommée par son prénom. Et là, elle s'est mise à parler. C'était comme un petit moulin à parole. Elle devait être très nerveuse. Et moi, j'écoutais, mais j'étais comme dans un état second, je crois. Mais c'est quand mon père a pris le téléphone et qu'il m'a dit, il avait la même voix que mon autre père, même voix basse, feutrée.
Tu parles de ton père adoptif?
Oui, mon père adoptif. Oui. Alors, j'avais l'impression, en même temps que mon père, qui était malheureusement décédé à ce moment-là, revenait me parler. Mais en même temps, c'est mon vrai père qui me parle. Et là, il me dit, allô, René, c'est ton papa qui te parle. Là, j'aime autant dire que c'est là que j'ai pleuré.
Ouais,
c'est là que les larmes sont sorties. Ouais.
C'est important, cet accueil-là, toi qui as vécu comme enfant abandonné, finalement?
C'est-à-dire que j'ai tellement été aimée, choyée, dorlotée dans ma famille adoptive.
Oui.
Ma mère, mes parents ont eu 5 filles. Et ma sœur, qui est avant moi, avait 9 ans plus que moi. Mais je ne me suis jamais sentie de trop. Jamais senti comme sur le bord de la porte, là.
Ouais.
Jamais, jamais, jamais. J'ai été vraiment... la petite Renée, là, c'était... j'ai été vraiment très, très aimée. Alors, d'ailleurs, avant, quand j'ai décidé de le faire, j'en ai averti ma mère aussi. Hein.
Tout le monde était d'accord, ça a fonctionné?
Oui. Même mes sœurs, elles étaient d'accord, elles étaient contentes pour moi, que je retrouve mes racines. Mais elles aussi, je les ai rassurées. Vous restez mes sœurs, là.
Et les relations avec la famille biologique, ça s'est réglé, ça s'est amélioré?
Pas vraiment.
C'est difficile, hein, encore?
Ça a été difficile.
Oui.
Et après le décès de mon père, c'est là que j'ai décidé de couper les liens.
Oui.
Parce que c'était trop douloureux pour moi.
Je comprends. Revenons au livre. Donc, ce n'est pas ton histoire, mais c'est basé sur ce que tu as vécu et tu as fait un roman. Sinon, rapidement, quelle est l'histoire que tu racontes là-dedans?
Ben, je raconte l'histoire de Marie qui, une des conséquences d'un enfant qui a été abandonné à la naissance, souvent, il va être dépendant affectif. Mais dans le cas de Marie, elle fait de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'elle, croyant qu'on ne l'a pas assez aimée pour la garder ou pour essayer de la retrouver, bien, elle sabote sa relation et elle cherche l'amour, mais elle ne la cherche pas vraiment parce qu'elle ne croit pas qu'elle le mérite.
Mmh. C'est terrible, mais c'est tellement des sentiments qui sont communs souvent à ce genre de situation quand même.
Mais moi, pourquoi aussi j'ai écrit ce livre-là? Pour plein de raisons. Je voulais rendre hommage à mes parents adoptifs, à mon père biologique, à ma fille et aux milliers d'enfants. Près de 300 000 enfants ont été donnés en adoption au Québec. Alors, c'est pas rien. Il y a encore 14 700 personnes présentement qui cherchent encore leurs racines. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on trouve, on se trouve, nous. On se reparente et on devient, on met comme un trait sur le passé et on vit mieux notre présent et notre avenir. J'y crois vraiment profondément.
René Tanguay, donc, parlons de ce livre. Il s'appelle Retrouvailles sous le sceau du secret. Oui. Disponible, comment on peut se le procurer?
On peut se le procurer sur le site de Bouquinbec. Mm-hmm. On peut se le procurer aussi sur leslibraires.ca. Il est aussi dans quelques librairies, la librairie Raffin à la place Versailles, Raffin sur Saint-Hubert, la librairie À lire à Longueuil et Le Fureteur à Saint-Lambert.
René Tanguay, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Rappel météo aujourd'hui, ben oui, c'est le froid qui s'installe, ben le froid, hein, moins 7, moins 8. Au Québec, donc, ça va aller de moins 9 au nord à moins 3 dans le sud et ça va être plus 2 en Gaspésie. C'est nuageux, passage nuageux, de la neige dans certains endroits, pluie ou neige mêlée de pluie autour de 4 degrés au Nouveau-Brunswick, 8 en Nouvelle-Écosse et 6 à l'Île-du-Prince-Édouard et c'est plus 9. À Terre-Neuve, puis là-bas, ça va être plus de la pluie, je pense bien. Et pluie et neige aussi en Ontario, moins 7 à moins 1, alternance soleil et nuages dans les prairies, moins 11 à moins 2, de la neige à Edmonton, 0. Il y a des possibilités d'averses sur la côte ouest, plus 7, mais à l'intérieur de la Colombie-Britannique, un avertissement de tempête hivernale avec plus 1. Mais j'ai le temps de remercier l'équipe qui travaille avec nous. Merci à Hélène Denis qui m'aide à préparer la recherche de cette émission. Et merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot et je vous invite aujourd'hui à 17h à mon autre émission, L'heure où l'arc-en-ciel si elle se lève. Il sera question à nouveau du VIH, l'état des lieux de la maladie dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. À la prochaine!